L'explication de la relation réelle et de la relation de raison entre Dieu et les créatures. Oui, je vous avais parlé à propos de la relation en vous disant que la relation a ceci de tout à fait particulier comparativement à toutes les autres déterminations de l'être, qu'il peut y avoir une relation qui soit une vraie relation et qui soit une relation de raison. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Je ne dis pas une relation réelle, mais une vraie relation qui soit une relation de raison et une relation réelle. Alors, il faut bien comprendre comment l'arbre qui est enfoncé dans l'île, c'est-à-dire que la relation a un fondement. À la différence de tous les autres accidents, tous les autres prédicaments n'ont pas de fondement. Ils sont simplement des formes particulières, des formes spéciales qui s'enracinent directement dans la substance, qui sont ordonnées à la substance. La qualité, prenez la différence entre la qualité. C'est la qualité qui nous fait mieux comprendre. La qualité est une forme qui est directement attribuée à un sujet. Et elle ennoblit le sujet. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une qualité réelle et une qualité de raison. Pourquoi? Parce que la qualité étant directement ordonnée au point de vue du sujet, elle inhère dans le sujet, donc elle est toujours réelle comme qualité. Elle ne peut pas s'abstraire du sujet. Elle peut s'abstraire du sujet en se formalisant, blancheur. Oui, c'est là la question difficile. Hein? Parce que quand vous dites blanc, vous avez la qualité qui inhère au sujet, le blanc du mur. Quand vous dites blancheur, alors c'est là où vous pourriez dire, mais blancheur, très bien, au fond, c'est une qualité de raison. C'est donc comme la relation de raison, comme un arbre coupé de l'île, alors vous avez relation de raison. C'est ici où le problème se corse. Hein, vous voyez bien. Parce que vous avez une relation de raison. Prenez une relation de raison, pensez toujours à l'universel. On va avoir quand même quelque chose dans la tête. Pensez à l'universel. Et quand vous pensez à l'universel, vous pensez au genre. Et quand vous pensez au genre, vous pensez à l'animal. Hein? Normalement, c'est comme ça que ça se produit. L'animal, c'est le genre le plus proche de nous. Et c'est à l'animal que vous pensez tout de suite quand vous pensez aux gens, vous pensez à l'animal. Bon. Alors, animal est un genre, c'est l'universel, c'est un être de raison. C'est une relation de raison. Un arbre de raison. Alors, quelle différence y a-t-il entre blancheur et relation de raison? Est-ce que blancheur n'est pas tout simplement une qualité de raison? Puisque blanc et blancheur, blancheur est séparé du sujet. Blancheur n'existe pas. Vous n'avez jamais vu la blancheur exister. Ce serait le spectre. C'est terrible de voir la blancheur exister. Effrayant. Alors, la blancheur n'existe pas. Et pourtant, blancheur, c'est une qualité. C'est la même forme. Donc, vous avez bien, au fond, au niveau qualité, une qualité réelle et une qualité de raison. Donc c'est exactement la même chose que la relation. Qu'est-ce qui peut me dire la différence? Là, je vous mets l'objection, hein? Une bonne objection. Qu'est-ce qui peut me dire la différence? Pourquoi je dis relation de raison et que je ne dis jamais qualité de raison. Alors que j'ai blanc, blancheur. Et que blancheur, c'est une qualité de raison. Puisque blancheur n'existe pas.
Il y a même signification.
Quoi ?
Il y a même signification entre blanc et blancheur.
Blanc, blancheur a une signification. Tandis qu'au niveau.
Au niveau de la relation de raison, il y a une signification différente à cause de l'opération de l'intelligence.
Parce que le fondement fait partie de la signification. Vous voyez ? Tandis que ici la forme est abstraite et donc au niveau signification, c'est la même signification. Selon deux modalités différentes, abstrait et concret, mais c'est la même signification. Tandis que du côté relation de raison et relation réelle, il n'y a pas la même signification. Donc vous voyez, la coupure, autrement dit, n'est pas la même. D'un côté, l'abstraction se fait du côté de la forme. C'est pour ça que je formalise. C'est la même forme, donc la même signification, puisque la signification est la forme. C'est la même forme, donc ce n'est pas une qualité de raison, c'est la qualité tout simplement réelle, ayant telle signification, qui est selon deux modalités différentes. Donc c'est uniquement du côté de la modalité concrète et abstraite. Tandis que quand il s'agit de la relation, je prends l'âme, je formalise l'âme en disant que l'âme peut très bien ne pas exister, mais c'est une autre relation. Ce n'est pas la même relation. C'est la même forme qui a deux modalités différentes, qui a la même signification selon deux modalités différentes. Là, ce n'est pas abstrait et concret. Ce n'est pas abstrait et concret, c'est réel et de raison. Ce n'est pas la même division. Et alors, je le vois tout de suite, du fait même que la signification de la relation raison et la signification réelle ne sont pas les mêmes. Parce que la signification de la relation implique le fondement. Le fondement fait partie de la signification. Ce n'est pas seulement l'âme. L'âme, c'est du côté de l'exercice. Mais la signification implique le fondement. Alors, par le fait même, j'ai donc deux types de relations, deux espèces de relations différentes. Relation réelle, relation de raison. Tandis que je ne peux pas dire que j'ai deux qualités de types différents, concrets et abstraits. Et ceci serait très intéressant à pousser un peu, vous voyez. Parce que ça fait comprendre pourquoi quelqu'un comme Heidegger considère que étant et être n'ont pas la même signification. Le concret et l'abstrait. Pourquoi ? Parce qu'il le prend du côté de la relation. Et c'est vrai que dans l'idéalisme hegélien, la relation devient le type sur lequel je conçois toutes les autres choses. Dans une philosophie réaliste, l'être est premièrement substance. Et c'est à partir de la substance que je conçois les autres prédicaments. Je peux concevoir un prédicament d'un type tout à fait particulier, qui est le prédicament relation. Dans une perspective hegélienne, ce n'est pas la substance qui me fait comprendre l'être, c'est la relation. Si c'est la relation qui me fait comprendre l'être, je vois que le point de vue relation réelle et relation de raison ont deux significations différentes. Et comme le mode abstrait, le mode concret, va se confondre avec relation de raison et relation réelle, je pourrais dire que l'être et les temps ont deux significations différentes. Vous voyez, c'est curieux ça. Mais ça nous aide à comprendre l'hégélianisme. Je ne sais pas si vous voyez bien ce petit raisonnement qui est intéressant à voir. C'est toujours par... Enfin, si j'essaie de comprendre, hein, au point de vue histoire de la pensée, c'est intéressant parce qu'on va retrouver ça au point de vue de la personne, hein, forcément. Si j'essaie de comprendre au point de vue de l'histoire de la pensée, je vois qu'il y a une transformation complète par rapport à l'être. Dans une perspective réaliste, l'être est premièrement la substance. dans une perspective idéaliste ou subjectiviste, l'être est premièrement relation. Si l'être est premièrement substance, je peux concevoir que le mode abstrait et le mode concret ne modifient pas la signification. Si l'être est premièrement substance, j'ai la tentation de voir que la relation de raison et la relation réelle vont être comme les grandes divisions du concret et de l'abstrait. Le réel sera conçu, le mode concret sera conçu sur le mode de relation réelle et l'abstrait sera conçu sur le mode de relation de raison. Ce serait intéressant à creuser ça. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Et ça fait comprendre comment relation réelle et relation de raison n'ont pas la même signification. Donc être et ce qui est n'ont pas la même signification. Vous vous souvenez, au point de vue métaphysique, c'est déjà loin, mais au point de vue métaphysique, je vous avais dit qu'il y avait un problème extrêmement important à souligner, le passage de ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être ? Quand je vois ceci est, je suis devant le concret. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Je suis sous un mode abstrait. L'interrogation. Et je vous avais dit, toute la question est de savoir si ceci est et qu'est-ce que c'est que l'être ont la même signification. Si ceci est et qu'est-ce que c'est que l'être n'ont pas la même signification, alors à ce moment-là, je ne peux pas à partir de l'interrogation, revenir à l'expérience, parce qu'il n'y a pas la même signification. Et je suis dans la position heideggerienne, qu'est-ce que c'est que l'être, et distinct des états, donc de ce qui est. Tandis qu'au contraire, si je comprends qu'entre ce qui est et l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, je suis devant un mode concret et devant un mode abstrait, qui ont la même signification. C'est pour ça que c'est intéressant à réfléchir là-dessus. Oui. C'est très intéressant de réfléchir sur la question blanc-blancheur, relation réelle, relation de raison. Et voir que d'un côté la signification est différente et d'autre côté la signification est la même. Et se poser la question pourquoi ? Parce que je crois que c'est peut-être cela qui donne la compréhension de l'erreur de Heidegger. Il ne faut pas seulement constater une erreur. Hein. C'est très important de la constater. C'est la première chose qu'on doit faire. C'est très important de constater une erreur. Puis après, il faut se demander pourquoi cette erreur. Parce que tant que je n'ai pas saisi le pourquoi de cette erreur, je risque toujours, n'est-ce pas, de m'opposer violemment à l'erreur. Je suis beaucoup plus proche quand j'ai compris le pourquoi d'une erreur. Ayant compris le pourquoi d'une erreur, je peux, par le fait même, essayer de comprendre comment on a été conduit à cette erreur. Et donc je l'évite beaucoup plus, parce que j'en vois la racine. Bon, alors je reviens aux relations réelles et aux relations de raison. Je vois dans la relation, l'ad peut se formaliser distinct du in. Donc du fondement. Parce que le propre de la relation, c'est d'impliquer un fondement. Un fondement qui fait que la signification de la relation est liée à son fondement. Mais il y a quand même l'exercice de la relation qui, lui, est au niveau de l'âme. Je peux donc isoler l'âme de son fondement et comprendre que le fondement n'est pas toujours existentiel, mais que le fondement peut être un fondement qui provient tout simplement de ma connaissance. Je suis capable de fonder une relation par ma connaissance. Et ma connaissance est capable de réaliser un monde de relations qui est un monde de relations de raison. La seule chose que je suis capable de créer, ce sont des relations. Ça, tout le monde est d'accord. Il y a des gens qui ne vivent que de relations. carte de visite. Ils ne vivent que de relations. Et ils oublient ce qu'ils sont. Parce qu'ils sont tout le temps relatifs, un jeu de relations. C'est terrible. Quand vous êtes uniquement un jeu de relations, vous savez plus ce que vous êtes. Avec monsieur un tel, vous êtes comme ça, avec madame une telle, vous êtes comme ça. Et puis, vous dites l'inverse de ce que vous pensez en fonction de la personne. C'est ce qu'on appelle des girouettes. Et c'est des girouettes, c'est parce que justement, vous n'êtes que relatif aux autres. Y être relatif aux autres, le jeu de la diplomatie et le jeu politique tel qu'il est conçu aujourd'hui, ce n'est pas du tout la politique d'Aristote. Hein. Il y a la politique des girouettes et la politique d'Aristote. La politique d'Aristote a une finalité, le bien commun. Quand il n'y a plus de bien commun, vous n'avez plus que des électeurs. N'est-ce pas ? Et alors, à ce moment-là, vous êtes girouette par rapport aux électeurs. Et alors, vous êtes uniquement un tissu de relations. Et que vous êtes un tissu de relations, vous n'avez plus d'être. Votre substance est volatilisée dans le point de vue des relations. Alors, il faut se rappeler ça, vous êtes capable de créer des relations. Des relations de raison. Du côté affectif et du côté intellectuel. Vous créez des relations affectives. Et créer des relations affectives, c'est très bien, mais ça ne tient pas. C'est ça le danger, vous voyez. Alors, on crée des relations au bout d'un certain temps, puis quand l'être relatif vers lequel on est disparaît, vous n'avez plus de substance. Vous êtes volatilisé en relation. Et alors, à ce moment-là, vous n'existez plus. C'est une manière de se néantiser, vous voyez. Bon, je ne vais pas plus loin, c'est simplement pour essayer de comprendre que lorsqu'il s'agit de la relation, c'est, il faut voir là toute la métaphysique de la relation et comprendre que la relation est un être tellement débile qu'il ne peut exister que grâce à son fondement. Et là, vous avez l'exemple très très simple de ça, c'est que lorsque vous êtes relatif à quelqu'un, vous êtes assis à côté de quelqu'un. Vous êtes donc relatif à cette personne qui est assise. Vous êtes semblable à lui parce que vous êtes assis. Il se lève. La relation de similitude d'être assis au niveau de la situation n'existe plus. Et pourtant, vous n'avez rien changé. Très drôle. Alors vous avez la tentation de dire, mais oui, la relation, donc c'est purement fictif. Vous êtes en relation d'amitié avec quelqu'un. Cette personne meurt ou disparaît dans la brousse, sans vous laisser de nouvelles. La relation d'amitié ne peut plus s'exercer. Vous êtes exactement le même. Vous n'avez pas changé. Mais l'autre a changé. Et alors, la relation d'amitié ne peut plus s'exercer. Et vous êtes complètement dépaysé. Vous n'êtes changé en rien ontologiquement. Et la relation disparaît. Parce que la relation ne peut exister que si l'autre est présent. Donc vous voyez la débilité de cet être. Cet être débile qui n'existe qu'en fonction de l'autre. Tandis que quand vous avez des qualités, vous dites, oh ben oui, ça, je sais, c'est de ma propre noblesse. Mais la relation... C'est un être terriblement débile. Il n'existe, il ne peut s'exercer qu'en fonction de l'autre. Ça, il faut le comprendre. Hein. Il faut y réfléchir. C'est du reste très difficile, mais c'est très important. Et de comprendre donc que la relation implique un fondement, à la différence de tous les autres prédicaments, de tous les autres accidents. Ça implique un fondement. Et parce que ça implique un fondement, il y a une possibilité de comprendre que la relation dans son exercice, peut être réelle de raison. Donc l'âme peut être réelle de raison, en fonction du fondement qui est ou l'acte, mon acte de connaissance, ou mon acte d'amour, ou au contraire un fondement réel. Bon, je n'insiste pas plus, je ferme la parenthèse et nous continuons le petit prof. Voir comment saint Thomas nous parle de la personne. Alors, le dernier point de vue que nous allons voir dans saint Thomas, qui est très important, qui prend une très grande place dans saint Thomas, et c'est toute la morale, toute la théologie morale de saint Thomas qui est en cause. Très intéressant de voir ça. Toute la théologie morale de saint Thomas repose sur la conception que saint Thomas se fait de la personne. Ça, c'est bien évident. Et toute cette conception morale de saint Thomas repose donc sur ça. Toute la conception qu'il a de la théologie morale repose sur le point de vue de la personne humaine. Ce serait le fondement de la théologie morale. Quel est le fondement de la théologie morale? Le fondement de la théologie morale de saint Thomas, c'est l'imago Dei. L'imago Dei est une personne. Il n'y aurait pas de morale s'il n'y a pas de personne. Donc le fondement, comprenons bien, je parle ici au point de vue de la théologie. Je ne parle pas ici au point de vue proprement philosophique. Parce que vous comprenez qu'il y a répétition de principes. La morale repose sur la personne. Et oui, quand je découvre votre personne, ah, vous êtes imago Dei. Donc il y a une personne. Le petit enfant qui est dans son berceau, imago Dei. C'est une image de Dieu. Mais je dis ça en fonction de quoi? D'un jugement de sagesse. Ce jugement présuppose que l'éthique existe. Donc il y a répétition de principe. C'est-à-dire, l'éthique repose sur l'imago Dei. Non, l'éthique ne repose pas sur l'imago Dei. L'éthique, au niveau de la théologie morale, repose sur l'imago Dei. Parce que c'est un jugement de sagesse. Mais l'éthique, c'est pour comprendre, hein, parce que comme vous faites de la théologie morale et que vous faites de l'éthique philosophique, vous en avez fait, alors, vous devez toujours comprendre la différence de perspective. Si on fait de la philosophie, c'est pour mieux comprendre la théologie. C'est pour mieux comprendre ce que c'est que la foi. Et pour mettre notre rapport à la foi. Alors, il faut bien saisir la différence entre la philosophie éthique et le fondement de la philosophie éthique et le propre de la théologie morale. La théologie morale de saint Thomas repose sur, et de toutes les pères de l'Église, hein, ça c'est pas original saint Thomas, sur le fait de l'imago Dei. L'homme est créé à l'image de Dieu. Puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, il y a la ressemblance de Dieu, il y a tout un aspect de théologie morale qui est à rechercher. Alors, c'est à la personne qu'il convient en propre d'agir, dit saint Thomas. C'est à la personne qu'il convient en propre d'agir. Tertia pars, question 3, article 1. Dans sa théologie morale, saint Thomas considère avant tout la personne comme sujet des actes humains. Donc, nouvelle conception de la personne. Hein. J'espère que vous avez noté les différentes relations, les différentes perspectives de la personne dans les ouvrages de saint Thomas. C'est intéressant parce que il faut tout l'ensemble pour comprendre qu'est-ce que c'est que la personne chez saint Thomas. Dans sa théologie morale, saint Thomas considère avant tout la personne comme le sujet des actes humains. Alors, je vous renvoie ici au père Demant sur l'usage de la notion de personne en philosophie morale. Le père de Mont était un théologie morale, hein, toute sa vie, c'était la théologie morale. Est une personne, celui qui possède un dominium sur ses propres activités. Donc, pour saint Thomas, l'imago Dei, la personne, qu'est-ce que c'est? C'est le sujet, le suppôt. Personne, c'est le suppôt. Suppôt d'acte de l'agir. Tout l'agir, c'est la personne. La personne est le sujet d'opération humaine. Nous savons, opération volontaire. Puis que l'agir est volontaire. Donc, la personne se définit par le volontaire. Au niveau moral, c'est le sujet des actions humaines. C'est le sujet, donc, alors, c'est celui qui est responsable. C'est ça qui m'intéresse. C'est donc la responsabilité qui définit la personne. Vous êtes une personne dans la mesure où vous êtes responsable. Si vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas une personne, moralement parlant. Pas ontologiquement parlant. Le petit enfant qui est dans son berceau, il n'est pas encore très responsable. C'est la béatitude du berceau. N'est-ce pas ? Alors il n'est pas encore responsable, mais il est une personne ontologiquement. Ontologiquement, il est une personne. Dès que l'âme est créée par Dieu, on est une personne. Dès que l'âme est créée par Dieu. Et même, je dirais, ontologiquement parlant, on peut dire que tout de suite, dès que je suis ordonné à l'acte, dès que je suis ordonné à une âme spirituelle, je peux dire qu'ontologiquement, je suis une personne. Parce que la puissance est déjà tout entière ordonnée à l'acte. Et donc, si elle est déjà tout entière ordonnée à l'acte, elle est l'acte. En attente. Donc, elle est une personne. Alors, il faut bien distinguer, vous voyez, et c'est ça qui est intéressant quand on regarde dans saint Thomas. On voit que les perspectives sur la personne sont différentes. N'ayez pas qu'une seule perspective sur la personne. Ce serait faux. Il y a une perspective que saint Thomas nous montre au niveau ontologique quand vous dites Dieu est une personne. Quand vous dites il y a trois personnes en Dieu. Quand vous dites le mystère d'incarnation. Puis il y a une perspective moralisante ou morale de la personne quand vous regardez la théologie morale. Alors vous donnez la responsabilité ou le dominium. Hein. Donc est une personne ce qui possède un dominium sur ses propres activités. Mais il faut reconnaître que saint Thomas, dans sa théologie morale, parle peu, du moins explicitement, de la personne. Car ce qu'il analyse, c'est l'action humaine et non la personne en elle-même. Autrement dit, en théologie morale, le point de vue de la personne est présupposé. Mais ce n'est pas ça qu'il regarde, c'est l'opération humaine. C'est cela qu'il analyse. Mais cette opération humaine est toujours l'opération humaine d'une personne. Mais il n'analyse pas la personne. Elle est présupposée. Et qu'est-ce qui fait le lien entre le point de vue de l'opération volontaire et la personne ? C'est le point de vue du dominium. Donc, le point de vue de la responsabilité. C'est intéressant parce que ça fait partie des objections qu'on vous sert. Ça. Alors, il faut bien comprendre. La réalité de la personne humaine est néanmoins partout présente dans cette théologie morale. Ça, je crois qu'on peut le dire. Il faut bien saisir ça. L'absence du mot personne dans la théologie morale de saint Thomas a pu faire dire que l'idée de vocation faisait défaut chez saint Thomas et que la personne comme existant singulier échappait aux catégories générales de la pensée objective. Confère Geffray la structure de la personne et les rapports interpersonnels. Alors ça, c'est intéressant à voir. Ceux qui s'intéressent à ce problème, il y a un article du père Geffray qui est très intéressant à étudier, qui n'est pas, je ne suis pas d'accord, hein, vous voyez bien. Mais c'est intéressant, parce que ça vous oblige de creuser. Hein. Et c'est assez... Geffray est intelligent. Mais, il est toujours un petit peu à côté. Donc, structure de la personne. Il est professeur à l'Institut catholique de Paris, donc c'est intéressant à voir. Donc, sans souscrire à une telle opinion, on voit cependant comment on peut se poser la question. La théologie morale de saint Thomas n'est-elle pas avant tout la théologie de l'imago Dei, plus que de la personne? Le père de Mans a vu une opposition entre la vocation originelle de chaque personne et la soumission objective de la raison au réel. Donc, voir l'article. Alors ça, c'est intéressant de se poser la question. Il faut se poser la question. faut comprendre que la théologie morale de saint Thomas est avant tout la théologie de l'imago Dei. Est-ce que quand saint Thomas dit que c'est la théologie de l'imago Dei, est-ce qu'on peut dire que c'est une théologie de la personne? Je dis oui. Personnellement, d'autres ont dit non. Il faut savoir, n'est-ce pas? Soyons loyaux en disant qu'il y a une opposition entre les deux, en disant que la théologie de l'imago Dei est objective et la théologie de la personne est subjective. Vous savez que c'est la grosse question d'aujourd'hui, hein, en théologie morale. Vous trouverez tout de suite, vous suivez saint Thomas ici très bien, mais ayez un œil sur ce que c'est que la théologie morale d'aujourd'hui. Parce qu'autrement, vous répéterez saint Thomas, et en répétant saint Thomas, on vous dira, vieille baderne, hein. Il faut comprendre et être capable de répondre à ces questions aujourd'hui. Hein. Et c'est le problème de la personne, c'est pour ça que c'est le problème de la personne qui nous. Aujourd'hui, on est l'opposition, c'était le grand drame, tous ceux qui ont connu ce drame à Fribourg, c'était le grand drame Furtner, ça a été de voir l'opposition, et Furtner là, tout simplement, mettait à l'intérieur de la théologie qu'on enseignait à Fribourg, l'opposition entre la théologie morale de saint Thomas et la théologie morale d'aujourd'hui. De la théologie d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme opposition? On dit théologie de la nature, théologie de la personne, ou morale, plus exactement, théologie morale de la nature, théologie morale de la personne. C'est pour ça que l'article de Père Demand et l'article du Père Geffray font allusion à ça. Alors on dira, la théologie morale de saint Thomas, elle est objective, c'est celle de l'imago Dei. La théologie morale de la personne est subjective, avant tout. C'est la théologie morale de la responsabilité. De la conscience et de la responsabilité. Oui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette opposition est fausse. Elle n'existe pas, cette opposition. Parce que toujours la personne implique une nature. Nous l'avons dit. Nous avons vu que c'était la nature rationnelle qui était impliquée dedans. Donc, la personne implique une objectivité. Pourquoi? Parce que la personne est finalité. Mais le jour où vous ne voyez plus la finalité, alors à ce moment-là, vous regardez uniquement l'exercice et le conditionnement exercice. Alors, vous opposez la subjectivité à la nature. Ça, il faut bien le saisir. Hein, il faut tout le temps le saisir à propos de toute la théologie morale que vous voyez. Parce que si vous ne voyez pas ça, encore une fois, vous vous enfermez. On peut s'enfermer dans saint Thomas comme dans un ghetto. Moi, je suis thomiste, ça m'est égal, le monde peut crouler. Non, pas du tout, on n'a pas le droit. Alors, il faut essayer de comprendre à quel moment s'est fait cette opposition, elle est historique, cette opposition, à quel moment s'est fait opposition entre théologie morale de la nature et théologie morale de la personne. Ça se voit beaucoup moins par rapport aux vertus théologales. Hein. Ça se voit surtout par rapport aux théologies, par rapport aux vertus morales. Prudence. Il y a deux conceptions de la prudence. Il y a la conception, et c'est à propos du traité de la prudence que ça doit se voir. Pas le traité de la foi. La foi est théologale, donc elle est objective. Dire une foi subjective, vous voyez, ça devient une sincérité. Ça devient plus du tout. Je suis croyant, subjectivement, je ne sais pas à quoi je crois. Ça arrive des gens comme ça. Oh, je suis très croyant. Et vous croyez à quoi? Oh, je ne sais pas. Mais je suis très croyant. Il y a des gens qui vous disent ça, vous en rencontrerez comme ça. Je suis très croyant. Alors à ce moment-là, vous voyez, la foi, ça devient là une religiosité. Rien de religiosité, c'est purement subjectif. Il n'y a plus rien d'objectif. Tout le traité de la foi, je ne sais pas, commence par l'objet. Donc tout le traité de la foi commence par l'objet. On voit très bien la perspective objective des vertus théologales. Ça ne peut pas être autrement. Mais ça implique un aspect subjectif qu'il ne faut pas oublier. Les vertus théologales sont à la fois les plus objectives et les plus subjectives. Les deux sont dedans. Pourquoi? Parce que, de fait, je veux croire. Voilà la subjectivité. Et que la foi ne supprime rien à votre conditionnement humain. La foi implique une simplicité et elle implique une composition. Tout de suite, l'objectivité et la subjectivité. Donc, théologie morale de la nature, théologie morale de la personne. Pour saint Thomas, il n'y a pas d'opposition. Et c'est pour ça qu'on doit dire que la théologie morale de saint Thomas, qui est la théologie de l'imago Dei, c'est la théologie de la personne. Mais saint Thomas, en théologien, et en théologien qui veut donner une théologie scientifique, insiste avant tout sur le point de vue populaire. Question qui commence le traité de la foi par l'objet. Quel est l'objet de la foi? Pour un moderne, c'est évidemment terrible. Ça. C'est terrible. Qu'est-ce que la foi modifie en votre vie? Oui, c'est la question. Question, vous vous réunissez. Alors, la foi, qu'est-ce que ça a modifié dans votre vie? Qu'est-ce que c'est que la foi? Et on se posera tout de suite la question, qu'est-ce que ça a modifié dans votre vie? En tant qu'ouvrier, en tant que mère de famille, en tant que père de famille, qu'est-ce que la foi a modifié dans votre vie? Rien. Il faut bien saisir, hein, parce que c'est très très important. C'est si on ne fait pas, et si on ne fait pas ce problème constant, de passer du point de vue de la théorie, théologie morale de la nature, théologie morale de la personne, si on n'a pas constamment les deux aspects présents et explicitement présents, on ne pourra pas répondre. Dès qu'on quittera la barrière. Hein, vous voyez? Parce qu'il faut bien voir que saint Thomas n'est plus enseigné aujourd'hui. Donc il faut le saisir de l'intérieur pour le comprendre, et saisir ce qui s'est développé indépendamment de lui. Ah oui, c'est très bien, la prudence. Ah oui, mais c'est la prudence. Bon, allez. Au point de vue de la foi, vous partez des théologies, des vertus théologales. Les vertus théologales regardent Dieu objectivement. Donc, ça va de soi. Ça doit commencer par le problème de la relation de l'objet. Oui. Tandis que lorsqu'il s'agit des vertus morales, et spécialement de la prudence, c'est évident que le point de vue du sujet est beaucoup plus encombrant que lorsqu'il s'agit de la foi. Parce que le point de vue de la morale implique nécessairement le point de vue de la situation dans laquelle vous vous trouvez. La foi, non. Mais c'est dans ce sens-là, mais je ne veux pas entrer là-dedans, mais c'est tout le traité de la prudence est évidemment très, très, beaucoup plus lié à ce point de vue-là. Je continue parce que... je termine. Si du moins l'on comprend que l'imago Dei est la personne, tout en impliquant des considérations très différentes, développées dans des climats très différents, n'exclut pas et ne peuvent s'opposer. On ne peut pas s'exclure. C'est ce que vous disiez. Théologie du magoné, théologie de la personne, il faut dire, pour nous, c'est tout un. Mais il faut le comprendre. Il faut comprendre pourquoi la théologie de l'imago Dei et la théologie de la personne, c'est tout un. On ne peut pas mettre d'opposition entre les deux. Mais que saint Thomas, étant de son temps, a développé avant tout la théologie de l'imago Dei. Nous qui sommes de notre temps, nous ne devons pas abandonner la perspective objective de saint Thomas, mais nous devons être très attentifs à la perspective subjective de notre temps. Nous devons être très attentifs à ça pour pouvoir répondre. La théologie de l'image, de l'imago Dei, est bien une théologie de la personne, mais de la personne créée, considérée dans la lumière de son modèle et de sa finalité propre. C'est ça qu'il a regardé en premier lieu. On fera la petite synthèse après, pour essayer de comprendre les différents points de vue que saint Thomas a soulevés, et pour essayer de mieux saisir, à partir de là, donc, ce que représente le mystère de la personne du théologien, et comment saint Thomas, étant théologien, regarde ça avant tout et en premier lieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit.